Je ne vais pas vous présenter la personne de Waltraud Linick, parce qu'elle est connue. Mais je lui ai demandé quand même si elle avait quelque chose à dire par rapport à Thérèse d'Avila, quelque chose de plus personnel. Alors, bien sûr, outre ce qu'elle va développer, à savoir la liberté, le thème de la liberté, mais je lui ai demandé, au fond, qu'est-ce qui vous attire un peu chez Thérèse d'Avila ? Alors, évidemment, elle est du Carmel, c'est la mère du Carmel réformé, etc. Mais il y a une petite note, c'est que c'est une femme, et puis elle est théologienne, au fond. Donc, ça plaît beaucoup à Waltraud, et ça va nous plaire aussi.
Merci beaucoup. Je vais vous décevoir, je ne vais pas vous parler tout de suite de la liberté, ce sera jeudi. Mais je vais prendre un thème qui est un peu plus théorique peut-être, mais vous allez voir à la fin de l'intervention que c'est un thème assez utile pour nous qui faisons des études et surtout pour nous qui voulons transmettre et enseigner la foi. Donc le titre est « Expérience mystique et théologie ». Quand on regarde Thérèse d'Avila avec toutes ses expériences mystiques, il y a une question fondamentale qui se pose tout de suite. Et elle est d'ordre méthodologique. Qu'est-ce qu'une mystique comme Thérèse d'Avila peut bien apporter à une approche théologique sérieuse et méthodique? Pour beaucoup, l'expérience mystique évoque grâce extraordinaire, peut-être même extravagance, subjectivisme, danger d'illuminisme. Donc il paraît difficile de concevoir comment une telle expérience, par définition singulière, peut contribuer à une démarche théologique authentique et objective. Voilà ma question. Donc, pour résoudre cette difficulté, il est utile de réfléchir sur ce qu'est une expérience. Ensuite, nous regarderons ce que c'est qu'une expérience mystique. Et nous verrons ensuite comment une telle expérience peut être objective et constituer une vraie théologie. Puis un regard sur les différents niveaux de la théologie permettra de clarifier l'apport de Thérèse pour notre démarche théologique d'aujourd'hui et aussi à quoi cette démarche d'aujourd'hui peut servir. Commençons donc par la question de l'expérience en général. La notion d'expérience implique un certain savoir fondé sur un contact avec le réel. C'est un savoir acquis par la vie, tout simplement, ou par une expérimentation provoquée. Ce savoir, il n'est pas subi ou reçu passivement. Ce n'est pas un simple sentiment. Il ne s'agit pas non plus d'une émotion subjective. Ce savoir n'est pas non plus entièrement construit par l'esprit humain lui-même. Il s'agit d'un vrai savoir venant d'un contact avec le réel. Donc l'expérience comporte donc à la fois une réception du réel, de quelque ordre qu'il soit, et nous verrons avec l'expérience mystique, ce réel est mystérieux, et il comporte aussi une part active de la personne selon ce qu'elle est. Et donc cette personne accueille, selon ce qu'elle est, ce réel, avec tout ce qu'elle est, pour en retirer une vraie connaissance. Il peut y avoir plusieurs degrés dans la connaissance qui jaillit du contact avec le réel. C'est un peu abstrait, mais là je pose les fondements qui nous permettront d'aller plus loin en vrai. Donc la connaissance peut se réduire à une simple prise de conscience d'un simple vécu. Vous savez peut-être très bien faire la cuisine, mais vous n'avez jamais réfléchi sur une recette et vous êtes incapable de donner une recette précise à quelqu'un d'autre. Vous avez simplement un vécu qui vous donne un savoir-faire. Il y a un deuxième niveau qui est un savoir rationnel organisé. C'est la science expérimentale qui se situe à ce niveau-là. On sait et on peut expliquer que l'eau bouillonne toujours à 100 degrés, sous telle condition. Ici, il y a donc une plus grande pénétration du réel par un travail systématique de la raison. ce savoir rationnel est vérifiable par d'autres personnes qui pourront refaire les mêmes expériences et en retirer le même savoir. Donc, ce n'est pas lié à la personne en tant que telle. Ce savoir se détache de ce qui est propre à une personne et il renvoie à une objectivité scientifique. Il y a un dernier degré de connaissance qui consiste en un savoir existentiel qui jaillit de l'engagement de la personne vis-à-vis du réel. C'est une connaissance qu'on nomme par connaturalité, par ressemblance ou par union. C'est de cette façon que l'on connaît d'autres personnes. Ça rejoint d'ailleurs le sens biblique du mot « connaître » qui dit aussi l'union conjugale. Donc c'est un autre rapport à la réalité que simplement scientifique. Alors maintenant, l'expérience mystique. Il s'agit d'une vraie connaissance. Elle comporte un aspect de connaissance, mais elle ne se réduit pas simplement à des sentiments, des imaginations ou des illusions. Donc, dans une expérience mystique authentique, il y a un contact avec le réel qui, en l'occurrence, sera le réel mystérieux qui renvoie à Dieu. Dieu, en tant qu'esprit, n'est pas accessible à une expérience sensible. Je ne peux pas entendre Dieu, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir. Vous faites l'expérience dans l'oraison. Hein. Et donc, il reste mystérieux pour nous. Et donc, le terme « mystique » renvoie précisément au mot « mystère ». Ce mot est d'origine grecque et qui se traduit en latin par le mot « sacramentum ». Et ce mot a reçu un sens technique au XIIe siècle. Il indique des objets de la foi inaccessibles à une connaissance par concept. Donc, le mystère désigne finalement Dieu lui-même, le Christ, l'union des hommes au Christ, dans l'Église. Ça désigne aussi les sacrements et surtout l'Eucharistie. À chaque messe, nous disons « Il est grand le mystère de la foi ». Donc cette notion de mystère n'est pas à confondre avec le mystère au sens moderne du mot qui signifie ce qu'on ne peut connaître d'aucune façon. Le mystère indique une vraie connaissance ici. L'expérience mystique, le réel avec lequel l'homme entre en contact est donc Dieu ou des réalités divines qui dépassent toujours l'homme. De plus, le contact se fait à l'intérieur de la personne. Il est aussi mystérieux. Mais il se médiatise par des réalités extérieurement saisissables, comme on le voit dans les sacrements proprement dits. Il y a une médiation. Le savoir qui jaillit de ce contact avec le mystère suppose et se fonde sur un engagement de foi de la personne. Cette foi concerne la totalité de la personne, c'est ce qu'on nomme la fille de Squa, et qui peut s'expliciter aussi à travers tout un ensemble de vérités reconnues, ce qu'on nomme la fille de Squa. Donc l'expérience spirituelle ou mystique au sens chrétien du terme ne peut donc pas faire abstraction de la personne et la connaissance qu'elle en retire vient de son engagement et de sa foi. En même temps, cette expérience pourra s'exprimer à travers les vérités de la foi révélées et transmises, mais tout en les transcendant. On peut donc ranger l'expérience mystique au troisième degré de connaissance mentionné tout à l'heure. C'est une connaissance par connaturalité, par amour. On a déjà entendu ce matin. Alors, cette expérience de la vie avec Dieu défie parfois tout savoir explicite. Elle cache des aspects qui ne montent pas jusqu'à la conscience psychologique des personnes. Il y a des expériences de la foi inconscientes qui viennent à la connaissance uniquement par les effets. Le frère Marie-Laurent a parlé de Thérèse l'Enfant Jésus, de la grâce de Noël, dont elle s'est rendue compte uniquement après coup, quand elle s'est découverte différente dans la vie par les effets. Donc dans l'expérience mystique, vous voyez, il y a une articulation très particulière entre le contact réel avec Dieu, le mystère, avec la psychologie de la personne et aussi la foi de la personne. Cette articulation est à l'origine de la connaissance que l'on a recueillie. Le contact avec le réel dépend de la foi de la personne et il produit un savoir qui monte à la conscience psychologique avec plus ou moins de clarté et de profondeur de réflexion selon la constitution de la personne, selon sa sensibilité, son tempérament, sa psychologie propre et aussi selon le don de Dieu. Je prends des exemples. Pour une personne, le don fait par Dieu d'une mission sera l'objet d'une grande joie. Pour une autre personne, la même mission sera cause d'angoisse. Un pessimiste relèvera davantage les aspects négatifs du contact avec le mystère. Un optimiste soulignera surtout les aspects positifs. Donc la prise de conscience du mystère dépend également des différentes capacités intellectuelles et de l'environnement culturel de la personne. Cela vaut aussi pour la capacité d'exprimer après en langage ses expériences. Vous avez Jean de la Croix qui était un théologien qui a fait de la théologie universitaire. Il va exprimer son contact avec le mystère à travers la poésie, mais aussi à travers un traité de théologie spéculative. Thérèse d'Avila va nous présenter surtout des descriptions de ce qu'elle a vécu. Elle exprime son contact avec le réel mystérieux comme elle peut, et elle l'exprime à travers sa culture. Elle a pris l'image du château pour parler de l'âme humaine. Et nous, aujourd'hui, on choisira peut-être une autre image pour dire la même chose. Alors maintenant, la grande question qui se pose, comment est-ce qu'on peut assurer l'objectivité d'une expérience mystique? Si une personne favorisée des grâces mystiques est si personnellement impliquée dans cette expérience, par sa foi, par sa constitution corporelle et psychique, par sa culture et ses capacités intellectuelles. La question se pose donc, comment garantir cette objectivité de la connaissance qui est quand même la condition nécessaire pour que l'expérience mystique soit utile à la théologie. Et Thérèse a posé cette question elle-même. Elle ne voulait pas écrire dans le vide. Elle a cherché toute sa vie à assurer la vérité de ce qu'elle vit et de ce qu'elle écrit. Comme preuve de cette préoccupation, nous renvoyons à la critériologie qu'elle a établie elle-même dans sa relation 4, dont de larges extraits vous sont proposés en lecture de groupe. Il y a peut-être l'un ou l'autre groupe qui a lu ce texte. Plusieurs éléments se dégagent de ce texte. Elle demande à des hommes spirituels de discerner ce qui lui arrive de l'horizon, parce qu'eux, ils en ont l'expérience aussi. Mais elle consulte aussi des théologiens, parce qu'eux, ils ont de la doctrine. En écrivant pour eux son expérience, elle donne en même temps ses propres critères qu'elle a mis par écrit dans la relation 4. Il y a un premier critère de discernement qu'elle donne pour elle, c'est la conformité à la foi de l'Église. Tout ce qu'elle voyait et entendait ne faisait que l'affermir davantage dans la foi catholique, dit-elle dans la relation 4, numéro 6. Et ailleurs, elle dit, elle est et a toujours été parfaitement soumise à tout ce qui est de la foi catholique. Sa prière et celle des monastères qu'elle a fondés ont pour objet l'augmentation de cette sainte foi. Or, la conformité à la foi catholique a besoin d'être précisée par des théologiens. Elle écrit dans la relation 4, numéro 7, « Il lui semblait que des hommes spirituels pouvaient aussi bien qu'elle être dans l'illusion. Elle désira donc s'entretenir avec quelques grands théologiens pour savoir si les choses qui se passaient en elle étaient conformes à l'Écriture sainte. Voilà un critère qu'elle donne. Elle cherche la conformité de ses expériences et de ses écrits à l'Écriture sainte, ce qui suppose évidemment une façon de l'interpréter. Et ce critère-là approfondit le premier critère. Sa propre fermeté dans la foi se fonde sur un dépôt objectif mis par écrit dans l'Écriture. Thérèse reconnaît ici implicitement la place primordiale de l'Écriture dans la vie de l'Église, qui, par toutes les dimensions de la réalité ecclésiale, transmet et conserve la parole de Dieu. C'est comme le dira quelques siècles plus tard le Concile Vatican II dans Dei Verbum numéro 24, l'Écriture, conjointement avec la Sainte Tradition, est la règle suprême de la foi, nourriture pour toute la vie de l'Église et fondement permanent pour la théologie. Donc Thérèse nous transmet une grande estime pour la Sainte Écriture. Thérèse a traduit ces critères fondamentaux, donc la foi de l'Église et la conformité à l'Écriture, elle les a traduits dans des exigences qui concernent son comportement personnel. Il ne s'agit pas seulement de vérifier la conformité de ses écrits avec l'Écriture et la foi professée, mais aussi d'assurer que son propre agir correspond à la loi de Dieu. Elle développe ainsi une critériologie du côté du sujet. Entre autres, elle parle du refus du péché, pas de vaine gloire ni d'orgueil, et parle aussi de la connaissance de soi. Elle reconnaît sa misère, dit-elle. D'ailleurs, à ce niveau, les théologiens n'ont pas craint de la mettre à l'épreuve pour voir si vraiment elle tenait à l'obéissance à l'Église et à ses lois jusqu'au bout. Thérèse les assure de sa ferme détermination à obéir et à faire en tout la volonté de Dieu. Au numéro 18 de la relation 4, elle dit « Autant qu'elle peut en juger, » donc elle parle d'elle toujours à la troisième personne, « autant qu'elle peut en juger, elle est si fermement résolue à ne pas s'écarter de cette divine volonté qu'il n'y a chose aucune, indiquée par ses confesseurs ou ses supérieurs, comme plus agréable à Dieu qu'elle ne soit prête à exécuter, convaincue que le Seigneur vient en aide à ceux qui n'ont en vue que son service et sa gloire. » On peut encore ajouter les bons effets et les bonnes dispositions suscitées chez elle par des grâces d'oraison. La pureté, la chasteté, le détachement de soi et des biens de la terre, son désir de l'honneur de Dieu et du bien des âmes, ainsi que la paix et l'assurance que lui donne une seule des visions ou une seule des paroles que Dieu lui-même lui adresse. Elle donne aussi des critères d'objectivité pour ses écrits. Dans le prologue et dans l'épilogue du château intérieur, Thérèse affirme qu'elle rédige par obéissance à ceux qui lui ont donné l'ordre d'écrire et qu'elle soumet tout son écrit à l'autorité de l'Église. Je cite simplement l'épilogue. « Je me soumets en tout à ce qu'enseigne la Sainte Église catholique romaine. C'est dans ces sentiments qui sont actuellement les miens que je proteste et promets de vivre et de mourir. » Fin de citation. À travers les personnes qui lui ont demandé d'écrire, Thérèse sait qu'elle n'obéit pas simplement aux désirs subjectifs de telle ou telle personne particulière, simplement pour lui faire plaisir. Elle se situe par sa foi dans l'Église, et dans une Église bien concrète, bien inscrite dans son temps. Elle connaît bien les hauts et les bas des ecclésiastiques, les problèmes de pouvoir, de richesse et d'honneur. Elle a fait des expériences douloureuses, notamment quand elle fut l'objet de la suspicion de l'Inquisition, ou quand, sur l'ordre de l'un de ses confesseurs, elle a brûlé son commentaire sur le Cantique des Cantiques, parce qu'il ne convenait pas qu'une femme commente l'écriture. Thérèse obéit toujours, malgré tout, parce qu'elle voit dans l'ordre des confesseurs l'ordre du Christ lui-même. Elle obéit toujours à ses supérieurs par désir d'imiter l'obéissance du Christ. Et elle obéit à l'Église pour le service de l'Église. Obéir pour Thérèse, c'est se soumettre résolument à la volonté de Dieu, à travers la parole de ceux qui exercent son autorité dans l'Église. Qui vous écoute, m'écoute. Luc 10, 16. Vous voyez, à l'origine de l'obéissance de Thérèse, se trouve bien sa foi en l'Église. On ne peut obéir ainsi que si on croit en l'Église. Et cette Église, elle voit, elle ne se réduit pas pour elle à une institution simplement humaine, pleine de défauts. Sans nier ses faiblesses, elle en a souffert, hein, sans nier ses faiblesses, sans nier la souffrance qui peut en découler, elle voit surtout en l'Église le mystère de la présence de Jésus-Christ. En tout ce qui touche les mystères de Dieu, et donc aussi en tout ce qui relève de l'expérience mystique, n'est-ce pas Dieu lui-même qui peut seul assurer la vérité et l'objectivité de ce qui est vécu et transmis? Thérèse se fie ainsi surtout aux institutions données à l'Église par l'action de l'Esprit-Saint. Donc on parle ici de l'expérience mystique, pas de toutes les questions qui touchent la vie humaine. Et pourtant, on pourrait croire que sa vie mystique lui donne une autorité supérieure aux représentants du Christ. Les Christ ne le connaît-elle pas mieux que ceux qui n'ont pas encore comme elle un contact si intime avec lui? Thérèse sait que son charisme de mystique ne peut s'authentifier lui-même et qu'il doit passer par le discernement de la communauté ecclésiale. Écoutons ce qu'elle dit dans le livre de la vie, chapitre 25, numéro 12. D'ailleurs, je suis entièrement convaincue que jamais Dieu ne permettra aux démons de tromper une âme qui ne se confie aucunement en elle-même, qui se tient si ferme dans la foi que pour un seul de ses articles, elle se sent prête à endurer 1000 morts. Une âme qui, par suite de cet attachement infusé directement de Dieu et qui rend sa foi vive et inébranlable, s'efforce constamment de se conformer à ce qu'enseigne l'Église et pour cela cherche à s'éclairer. Une âme si ancrée dans ses vérités que toutes les révélations imaginables, combien même verrait-elle les yeux ouverts, ne la feraient pas dévier d'une ligne de la doctrine de l'Église. Au fondement de cette affirmation est finalement l'unité du dessein de Dieu et la fidélité de Dieu à lui-même. Thérèse nous apprend ici qu'un tel attachement à l'Église, une telle reconnaissance de l'ordre établi par Dieu et des ministères institués, est finalement un don directement infusé par Dieu, mais qui demande aussi la fidélité de la personne et une entière défiance de soi. Thérèse dit « Jamais elle ne s'est conduite d'après ce qu'elle entendait dans l'oraison. » Bien plus, ses confesseurs lui disaient-ils d'agir différemment, elle le faisait aussitôt, et ne manquait pas de les informer de tout ce qui se passait en elle. C'est le numéro 11 de la relation 4. Thérèse est ainsi héroïque en son obéissance. On lui demande de faire un geste de mépris en face de Jésus, et elle le fait. Et Jésus lui-même la félicite de son obéissance. Il respecte lui aussi les médiations humaines qu'il a instituées dans son Église. Cette foi en l'action de Dieu dans l'Église permet à Thérèse de voir clair et de ne pas s'appuyer sur une façon simplement humaine, toujours restreinte d'appréhender le mystère de Dieu. Et je la cite encore. Bien qu'elle ait affirmé que c'était Dieu qui agissait dans son âme, jamais elle ne l'a cru d'une manière assez absolue pour pouvoir en jurer. C'est étonnant comme phrase. C'est numéro 11 de la relation 4. Admirant ici l'humilité et la grandeur de Thérèse, qui est assez dégagée d'elle-même pour ne pas s'entêter dans sa propre façon de voir et de comprendre. Son souci d'une vérification objective de ce qu'elle a vécu et écrit est ici attesté et constitue pour nous aujourd'hui un témoignage fort de l'authenticité de ce qu'elle nous transmet. L'Église, par ses ministres, a en effet reconnu la cohérence de sa doctrine avec l'Écriture sainte et la cohérence existentielle de toute sa vie avec la foi professée, célébrée, vécue et priée. Thérèse ajoute encore, et c'est un beau texte, numéro 13 de la relation 4, « Elle n'aurait pas voulu voir tout condamné sans raison et d'une manière absolue, pas plus qu'elle ne souhaitait voir tout attribué à Dieu indistinctement. » Thérèse montre l'importance de procéder à un discernement rationnel. Au lieu de tout absoudre ou de tout rejeter en bloc de façon absolue, par passion ou par peur, Thérèse est très consciente que dans l'expérience mystique, l'action de Dieu et les actions et réactions de l'homme sont toujours étroitement mêlées. Il faut savoir les discerner. On va passer au point 3. L'expérience mystique, une vraie théologie. Donc revenons à notre question. Est-ce que les écrits de Thérèse peuvent nous être utiles pour une approche théologique objective? Si la personne favorisée de grâce mystique est si personnellement impliquée dans son expérience, en particulier par sa foi et par sa culture, sa sensibilité, comment ne pas faire appel à une instance qui puisse garantir l'objectivité de ce qu'elle vit? Mais une précision sur la foi s'impose tout d'abord. Qu'est-ce que la foi? La foi de la personne à laquelle on accorde ici une telle importance n'est pas un ressenti psychologique de la foi en Dieu. Il ne s'agit pas de la foi qui serait simplement un don reçu passivement de Dieu. Ce n'est pas un simple engagement subjectif de la personne par rapport à Dieu. Quand je dis « je crois en Dieu », ce n'est pas une opinion personnelle. Comme je dis « je crois que demain il va pleuvoir ». La foi fait toujours appel à la raison et à la volonté, à toute la personne qui s'engage en faveur de Dieu, fides quoi. Et cette foi se déploie ensuite dans toute une doctrine de vérité à croire, ce qu'on nomme fides quae, et qui ce dépôt de la foi est commun à toute l'Église. Ce dépôt de la foi fonde l'adhésion de la personne à Dieu et garantit la justesse de la foi qui est engagement. Au fond, il s'agit donc de deux faces d'une seule et unique réalité. C'est une seule et unique foi. Et puisque la foi est toujours un don de Dieu, la garantie de la transmission fidèle de ce don, comme fondement même de l'adhésion de la personne à Dieu, ne peut s'appuyer que sur un autre don de Dieu. C'est précisément la fonction du magistère de l'Église qui agit avec l'assistance du Saint-Esprit. Et donc Thérèse a toujours cherché l'assurance de l'Église en son magistère pour vérifier l'orthodoxie de son expérience et de ses écrits. Ceci dit, l'utilité de ses écrits consistait pour elle seulement à aider ses sœurs carmélites pour s'engager résolument à la suite du Christ et à parvenir à naviguer au travers les difficultés de toutes les étapes de la vie spirituelle. Or, l'Église y voit une plus grande utilité encore. Elle l'a canonisé en 1622 et elle l'a fait docteur de l'Église en 1970. Et le pape Paul VI souligne qu'elle a une doctrine éminente, fondée non seulement sur ses nombreuses qualités humaines et sa grâce maternelle, mais aussi, surtout, sur l'action extraordinaire de Dieu en elle. C'est l'union à Dieu la plus intime et la plus forte qu'il soit donné à l'âme d'expérimenter sur cette terre, dit-il. Donc l'expérience mystique comme réalité de foi et d'amour est un témoignage de l'action même de Dieu. Cette expérience mystique n'existe que parce que Dieu a agi réellement. Ainsi, le mystique apporte à la théologie une connaissance du mystère qui s'enracine dans un vécu authentique d'alliance avec Dieu. C'est lui qui est en fait le vrai théologien, connaisseur de Dieu, pour qui la connaissance jaillit directement de son union avec Dieu, parfois sans parole et sans image. C'est une connaissance qui porte donc un sceau apposé par Dieu lui-même. Et on passe à la dernière partie de mon exposé, les différents niveaux de la théologie. Il est utile de distinguer ces différents niveaux d'expression de la connaissance du mystère pour situer plus facilement la parole de Thérèse, mais aussi d'expliciter davantage le bien fondé de sa soumission à l'Église et aux théologiens. Nous nous appuyons ici sur le prologue du Cantique spirituel de Jean de la Croix. En tant que théologien universitaire, il a pu expliciter ces différents niveaux de la théologie qu'il utilisait d'ailleurs dans ses œuvres. L'expression théologie mystique désigne chez lui l'expérience mystique elle-même, donc le contact avec Dieu, vécu dans l'amour. C'est une connaissance d'amour donnée par l'Esprit de Dieu et c'est une sagesse parce que, comme dit Jean de la Croix, non seulement on connaît, mais en même temps on savoure. L'expression verbale de cette expérience, dans un écrit, prend chez Jean de la Croix d'abord la forme de poème. C'est une expression qui passe par des symboles et des images, qu'on peut nommer théologie symbolique. C'est le deuxième niveau. Celle-ci se fait grâce au souffle fécond de l'amour. Elle est soutenue par une action de l'Esprit-Saint. Car, comme dit Jean de la Croix, il cite saint Paul, « C'est l'Esprit du Seigneur qui aide notre faiblesse. Demeurant en nous, il demande pour nous avec des gémissements ineffables ce que nous ne pouvons ni bien connaître, ni bien comprendre, pour l'exprimer clairement. » Donc si donc la connaissance mystique est une expérience vivante de Dieu, au-dessus de tout langage humain, elle utilise pourtant un langage pour s'exprimer. Un langage fait d'images, de comparaisons, de similitudes. Ce langage ne sert pas à expliquer le mystère, mais à laisser déborder et à épancher des aspects du mystère. Les images transmettent quelque chose de l'expérience elle-même pour aider les autres à entrer dans une même expérience. Donc Jean de la Croix explique ensuite certains aspects de ses poèmes en utilisant le langage de la théologie scolastique conceptuelle. Donc c'est le dernier point, la théologie conceptuelle universitaire. Celle-ci exprime la connaissance de Dieu d'une manière quelque peu intellectuelle, dit-il. Elle comprend les vérités divines, mais ne peut pas expliquer le mystère lui-même. Cependant, donner quelques lumières générales grâce à la théologie conceptuelle permet de ne pas rétrécir le sens des poèmes et d'avoir accès à la richesse du mystère. Cet accès ne se fait pas tant par la compréhension du mystère ou par une connaissance spéculative et abstraite, mais par une foi aimante. Donc vous voyez, le rôle de la théologie systématique est de vérifier et de garantir la vérité à la fois de l'expérience vécue et de l'expression symbolique. Donc le dernier niveau doit aider à vérifier les niveaux 1 et 2. Cette expression demande un charisme particulier. Si déjà la théologie mystique est un don de Dieu, l'expression dans la théologie symbolique et conceptuelle est aussi un don de Dieu. On peut dire la même chose maintenant de Thérèse d'Avila. Dans le premier chapitre du livre « De cheveux vers Dieu », le père Marie-Eugène souligne l'excellence de son livre « Le château intérieur ». Et il explique non seulement par la grâce charismatique de la transverbération, dont le frère Marie-Laurent nous a parlé, cette grâce qui assure à Thérèse la fécondité spirituelle en tant que réformatrice et mère spirituelle, mais l'excellence de Thérèse consiste aussi dans son état de perfection. Quand elle écrit ce livre, elle est déjà au septième demeure. Sa sainteté personnelle atteste et l'excellence de son expérience mystique donnée par Dieu, et de plus, elle jouit, durant la mise par écrit du livre, d'une assistance divine qui lui permet d'exprimer correctement son expérience et de la transmettre à d'autres. Et comment fait-elle ? Eh bien, elle le fait avec les qualités et les déficiences de son tempérament de mystique. Elle ne va pas utiliser un langage de concept qui est beaucoup trop précis pour traduire la richesse de ce qu'elle a vécu. Elle-même, elle va utiliser des images et des symboles qui ont un sens beaucoup plus indéfini, c'est plus vaste et moins restreint, c'est plus adapté au mystère et à l'infini. Ces images et ces symboles que Thérèse utilise sont accessibles d'ailleurs à toutes ses sœurs. Et pourtant, Thérèse ressent le besoin de recourir à la théologie conceptuelle. Alors, pourquoi et en quoi? Le père Albert Chapelle explique le rôle de la théologie conceptuelle en lien avec la théologie symbolique. Je parle d'abord du symbole, je ne reviens pas tout de suite à la citation, au texte que j'ai mis en PowerPoint. Le symbole est une sorte d'image assez floue pour parler de la réalité divine. Parler du Christ en termes de bon pasteur, selon la culture que vous avez, va évoquer chez vous des résonances différentes. Ça peut dire « c'est celui qui marche devant ». Le bon pasteur peut être aussi celui qui va trouver les bons pâturages pour ses brebis. Pour d'autres, l'image du bon pasteur va évoquer la réalité de celui qui va porter la brebis malade sur ses épaules. Cette image du bon pasteur évoque donc une réalité concrète, riche, affectueuse même. Maintenant, je prends le concept. Quand je parle du Christ en termes d'union hypostatique, ça nous semble plutôt froid et assez abstrait. Le concept théologique est déterminé rationnellement pour être efficace. C'est-à-dire, il est précis et circonscrit pour pouvoir expliquer rationnellement certains aspects du mystère. Vous voyez, le symbole évoque une réalité concrète. Un concept prend un aspect pour le définir très précisément. On l'a fait dans l'histoire de l'Église pour éviter des erreurs. Donc, c'est comme une petite case qui précise un point précis. Donc, la réalité indiquée par le concept est beaucoup plus riche que ce que dit le concept. Voilà une citation du père Albert Chapelle dans son syllabus sur l'herméneutique. Le concept, dans ce qu'il a de rationnel, ne détermine jamais la symbolique théologique, parce que celle-ci est toujours un surcroît de sens dont la gratuité ne s'épuise pas dans la nécessité du concept. L'ouverture du symbole théologique lui permet d'être réinterprétée indéfiniment. Elle permet au pluralisme des théologies et des appareils conceptuels différents de se trouver plus ou moins à l'aise à l'intérieur de la symbolique chrétienne. C'est pourquoi d'ailleurs, tout renouveau théologique dans l'Église, tout passage d'un système conceptuel à un autre, s'opère non par une transmutation logique de concepts, mais par un retour au symbole originaire de l'Écriture et du symbole des apôtres. Le texte est un peu complexe, mais en fait, il nous explique quelque chose d'important. Thérèse ne demande pas à la théologie conceptuelle de limiter le sens de ce qu'elle dit, ni de retailler dans son écrit. Elle demande simplement des explications et la vérification que ce qu'elle dit est bien conforme à la symbolique de l'Écriture sainte. Il ne s'agit pas de mettre en petite boîte rationnelle son expérience mystique, mais il s'agit de vérifier que le symbole du château intérieur, qui ne se trouve pas dans l'Écriture, est bien conforme à la vérité de l'Écriture. L'Écriture sainte recourt aussi à un langage symbolique. Et donc la fonction du théologien est de garantir, par la recherche de l'intelligence de la foi, que dans le passage d'une symbolique à l'autre, soit sauvegardée la même vérité de la foi de toute l'Église. En fait, c'est ce point auquel je voulais en venir. C'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Je vais d'abord citer encore un texte de Donum Veritatis, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien, parce que quel est l'enjeu de tout ce que je viens de vous raconter? L'enjeu, c'est le suivant. La science théologique qui recherche l'intelligence de la foi en réponse à la voix de la vérité qui appelle, aide le peuple de Dieu selon le commandement apostolique à rendre compte de son espérance à ceux qui le demandent. L'enjeu de la mission de la théologie, c'est la communication de la foi et sa transmission. La théologie doit aider Thérèse et nous à rendre compte de notre expérience et de la foi de l'Église. Et donc, elle doit aider à ce que la tradition continue à animer la vie de l'Église à son époque comme à toutes les époques de l'histoire. Thérèse nous donne ainsi un exemple et des critères pour que nous, aujourd'hui, nous puissions aussi rendre compte du mystère de la foi que nous vivons et que nous puissions l'adapter dans une expression symbolique adaptée à notre monde d'image d'aujourd'hui. Les jeunes vivent dans le numérique. Notre culture est très différente de la culture biblique et de la culture de Thérèse. Thérèse nous aide donc à avoir les critères qui nous permettent de vérifier la symbolique nécessaire pour aujourd'hui à la transmission de la foi, pour vérifier si notre symbolique est conforme à l'Écriture sainte. Et je finis avec une citation, une phrase que Thérèse a entendue de la bouche même de Jésus et que j'aime beaucoup. C'est dans la vie, chapitre 40. Tous les maux qui arrivent dans le monde viennent de ce que l'on n'a pas une parfaite connaissance des vérités de l'Écriture, de la symbolique divine, peut-on dire. Et cependant, pas un point sur un i ne passera. Que l'étude de la symbolique thérésienne nous aide à mieux entrer dans la symbolique de l'Écriture. J'ai envie de dire Amen.